Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Alexis Fricker.
Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Appel sur l'actualité, le débat, c'est dans une demi-heure. Aujourd'hui, nous allons parler du Mali. C'est la dernière ligne droite avant la présidentielle de dimanche prochain. La campagne doit s'achever dans 5 jours. Ce sera vendredi. Pour faire le contexte très rapidement, 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui brigue un second mandat. Un scrutin, une campagne qui se déroule dans un contexte un peu particulier sur le plan sécuritaire, notamment avec des menaces djihadistes, mais aussi des affrontements intercommunautaires. Contexte particulier également concernant une polémique qui est née le week-end dernier concernant les fichiers d'électeurs et le nombre d'électeurs inscrits. Polémique lancée par l'opposition et le camp de Soumaïla Cissé. On en parle, tout cela dans une demi-heure dans le débat. Vous nous appelez au 33 9 693 693 70. Vous nous écrivez par mail, vous nous contactez aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Mais avant cela, les questions qui ont retenu votre intérêt, les questions qui font la une de l'actualité. Bonjour Gabin, vous nous appelez du Gabon.
Et bonjour Alexis.
Vous êtes auditeur.
Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Merci, auditeur de RFI à Libreville. Gabin, vous allez nous poser vos questions dans quelques instants. On va resituer le contexte dans l'affaire Benalla, puisque en ce moment même a lieu l'audition du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb concernant cette affaire qui a éclaté la semaine dernière lorsque le journal Le Monde a divulgué une vidéo qui montre un proche conseiller du chef de l'État, Alexandre Benalla, donc en train de brutaliser des manifestants lors des manifestations du 1er mai dernier. Il a été mis en examen avec 4 autres personnes hier. Il y a eu la perquisition de son domicile. Alexandre Benalla va être licencié. La procédure a été lancée vendredi dernier. Voilà donc pour le contexte. J'écoute vos questions à présent, Gabin.
Oui, merci Alexis. Mais justement, voilà, malgré le contexte que vous avez planté, donc il y a toujours des questions un peu, questions d'ordre originel qu'on a envie de comprendre par rapport à cette histoire. Oui. Et moi, la première question qui me venait à l'esprit, c'est d'abord, je voulais avoir un rappel clair et le plus exhaustif possible des raisons et des circonstances qui ont fait que ce monsieur-là se retrouve là le 1er mai avec les attributs des forces de maintien de l'ordre et justement se retrouve à molester des manifestants.
Oui, avec un casque de CRS et un brassard police. Pour y répondre, Pierre-Olivier avec nous qui suit cette affaire Benalla. Bonjour Pierre.
Bonjour Alexis, bonjour Gabin.
Alors, comment Alexandre Benalla s'est trouvé en marge de ces manifestations et comment s'est-il trouvé à intervenir aussi le 1er mai face à des manifestants?
Alors déjà, pour la première question, pourquoi est-ce qu'il était là? Eh bien, 2 jours avant cette manifestation du 1er mai, il avait fait la demande à la préfecture de police de Paris, sachant qu'il était en congé ce jour-là. Il avait demandé à la préfecture de police s'il pouvait assister les forces de l'ordre pendant cette manifestation pour voir, dit-il, comment les forces de l'ordre géraient ce genre d'événement. C'est possible et c'est tout à fait légal pour certaines personnes qui en font la demande. Ça peut être le cas pour des journalistes, pour des magistrats qui sont en formation ou encore pour des chercheurs qui étudient tous ces phénomènes de société et parfois des membres des ministères ou de la présidence de la République peuvent aussi demander d'assister à ce genre de manifestation aux côtés des forces de l'ordre. Donc, le fait qu'il assiste, c'est légal. En revanche,
il pouvait être là. En revanche,
trois conditions. Il y a toujours 3 conditions pour ces observateurs. La première, c'est de ne jamais prendre part à l'action et rester, comme son nom l'indique, observateur. Or, on voit que Alexandre Benalla s'en prend à 2 manifestants assez violemment et la situation ne semble pourtant pas si tendue au moment des faits. Première donc interrogation, pourquoi a-t-il pris part à l'action alors que c'est strictement interdit dans le statut d'un observateur? Et puis deuxième obligation, avoir un référent policier et toujours rester à ses côtés. Or le référent policier d'Alexandre Benalla qui a été mis en examen n'intervient à aucun moment alors qu'on voit Alexandre Benalla s'en prendre aux manifestants. Deuxième question, pourquoi ce référent n'est pas intervenu alors qu'il doit surveiller, entre parenthèses, son poulain pendant toute la durée de la manifestation? Et puis troisième condition, condition pour les observateurs. Ils sont interdits d'avoir du matériel sérigraphié. Donc ça veut dire du matériel avec les écussons ou du matériel
avec
du policier.
Avec une inscription police.
Avec
exemple.
Une inscription police. Alors pour le casque, la préfecture précise que dans ce genre de manifestation, même les observateurs ont besoin de se protéger et qu'il n'existe pas de casque différent pour les policiers ou pour les observateurs, qu'il avait donc le droit, entre guillemets, d'avoir un casque police puisque c'était pour le protéger. En revanche, sur d'autres images, on voit qu'il a un brassard
de la police, un brassard orange,
et qu'il porte aussi un talkie-walkie. Et ça, pour le coup, ce sont deux attributs des policiers que un observateur ne doit pas avoir. Troisième interrogation, dans quelles conditions, comment a-t-il pu se procurer ce matériel, ce qui est encore une fois interdit quand on est un simple observateur dans une manifestation.
Oui, parce qu'Alexandre Benalla n'est pas fonctionnaire de police, faut bien le rappeler. Gabin, vous avez une seconde question.
Tout à fait, exactement. Pour essayer justement de comprendre un peu le pouvoir que ce monsieur a eu de pouvoir s'imposer comme ça, c'est voilà, j'aimerais comprendre quel est le profil de ce monsieur, quel est son parcours et comment a-t-il fait justement pour se retrouver dans l'entourage du candidat puis du président Macron.
Merci Gabin. Alors Pierre, qui est Alexandre Benalla ?
Alors c'est un jeune, hein. Il est jeune, il a 26 ans, il va avoir 27 ans en septembre prochain et il a toujours dit son intérêt pour toutes les questions de sécurité, ça l'a toujours passionné. Il a fait des études de droit, âgé de 20 ans, il faisait du droit et en parallèle, eh bien, il voulait devenir le monsieur sécurité du Parti Socialiste et c'est d'abord là où il a été embauché. Il avait environ 20 ans, je vous l'ai dit, et il est décrit comme un garçon un peu cow-boy mais pas méchant, ça c'est un ancien collaborateur du Parti Socialiste qui le dit. Alors, il a été aussi réserviste de la Gendarmerie Nationale. Et puis, en 2012, après l'élection de François Hollande, c'est là où les choses s'accélèrent pour lui, puisqu'il arrive à décrocher un emploi au ministère de l'Économie et devient le chauffeur d'Arnaud Montebourg, qui était à l'époque ministre du Redressement Productif. Et puis, c'est là qu'intervient aussi une première faute professionnelle, puisque il va avoir, alors qu'il conduit Arnaud Montebourg dans sa voiture, il va avoir un accident dans Paris et va tenter de prendre la fuite au volant de sa voiture. Arnaud Montebourg l'interrompt et lui dit que c'est absolument pas possible qu'il prenne la fuite et qu'il faut s'arrêter, aller voir la personne, l'automobiliste avec qui il a eu cet accident. Et une semaine après, Arnaud Montebourg mettra fin à son contrat pour ce différend. Et malgré tout, ça ne l'empêche pas, Alexandre Benalla, de poursuivre sa carrière et il sera nommé comme chef de cabinet du délégué interministériel à l'égalité des chances, Jean-Marc Mormec, ça c'était en 2016, donc il poursuit son parcours. Et puis, autre accélération, pendant la campagne présidentielle de 2017, il rejoint l'équipe d'En Marche et participe au service de sécurité du candidat Emmanuel Macron. Il est alors payé 3 500 € par mois et il a des idées assez particulières ou en tout cas que les proches d'Emmanuel Macron ont retenu, comme par exemple installer une trappe sous le pupitre d'Emmanuel Macron pour que en cas de...
Pour une évacuation rapide,
une trappe dans laquelle se réfugierait Emmanuel Macron. Et puis il a aussi l'idée d'équiper de flashballs et de boucliers anti-émeute tout le staff, le personnel d'Emmanuel Macron. Cela fait, bon, pour certains conseillers du candidat, cela semble un peu étrange. Et puis finalement, en mars 2017, Emmanuel Macron devient président. Et puis, Alexandre Benalla est alors chargé de la sécurité du président. C'est comme ça qu'il entre à l'Élysée après s'être fait remarquer tout au long de la campagne et avoir pris ses places comme monsieur sécurité. Et on le voit depuis au ski, au salon de l'agriculture, au vélo, en train de faire du vélo
aux côtés du président.
Donc, ce qui montre qu'il est tout de même assez proche. Et puis, y compris après sa mise à pied de 15 jours, en mai dernier, après cet incident du 1er mai, il a continué à être aux côtés du président puisqu'on l'a vu encore lundi dernier dans le quart de l'équipe de France qui revenait de Moscou.
Ouais, alors très rapidement Pierre, parce qu'on a encore deux autres questions à traiter, est-ce que dans cette affaire l'Élysée a enfreint la loi tout simplement en gardant cette affaire sous silence ?
Eh bien il y a l'article 40 du code de procédure pénale qui rapidement dit que tout fonctionnaire, toute personne dépositaire de l'autorité publique qui est au courant d'un délit doit en référer au procureur de la République. Or l'Élysée était manifestement au courant de ce dérapage d'Alexandre Benalla, mais il n'a rien dit au procureur. L'Élysée dit que pour lui, ce n'était pas un délit. Le problème, c'est que l'Union syndicale des magistrats rétorque que ce n'est pas à l'Élysée, mais au procureur de décider si c'est un délit ou pas. Mmh. Donc, on peut considérer que oui, l'Élysée a enfreint la loi en ne faisant pas remonter à la justice l'information qu'un des collaborateurs avait commis une agression.
Merci Pierre-Olivier, puis on verra comment cette affaire va évoluer avec l'audition en ce moment même du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. 10h20, appel sur l'actualité continue avec vos questions qui concernent maintenant l'amende record infligée à la firme américaine Google. Bonjour Rodrigue.
Bonjour Alexis, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous écoutez à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, il y a 5 jours exactement, Google a écopé d'une amende de 4,34 milliards d'euros de la part de la Commission européenne pour abus de position dominante concernant son système d'exploitation pour les smartphones, le système Android, qui occupe tout de même 80% des appareils en Europe et dans le monde. Que voulez-vous savoir, Rodrigue ?
Merci Alexis. Alors, je voudrais savoir, quel est l'impact de cette amende pour la firme Google et doit-on s'attendre à une contre-attaque de la part des États-Unis d'Amérique en pleine guerre commerciale contre l'Union européenne? Et si, y a-t-il d'autres entreprises qui pourraient être écoupées de ce genre de sanctions?
Merci, Rodrigue. Pour y répondre, nous sommes en ligne avec Renaud Christol. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialisé en droit de la concurrence. Concrètement, cette amende de 4,3 milliards d'euros pour Google, qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise ? C'est un coup dur ou c'est un détail, tout simplement ?
Non, c'est pas un détail. 4,3 milliards d'euros, même pour Google, c'est pas un détail. Ça signifie trois choses. D'abord, un, il faut payer l'amende, parce que même si Google a fait appel, ça ne suspend pas le paiement de l'amende. Deux, la décision prévoit aussi que Google a 90 jours pour arrêter de faire ce pourquoi il a été condamné, en faisant très simple. Et ça, ça suppose quand même pas mal de modifications de comportement. Et trois, la décision soulève un nouveau risque pour Google, qui est que les victimes des pratiques vont pouvoir demander une indemnisation. Puisque, et la Commission le dit très clairement, l'amende qu'elle prononce n'indemnise pas les victimes. Donc les victimes, par ailleurs, et ça se fait beaucoup aux États-Unis notamment, vont pouvoir aller demander à Google une indemnisation.
Donc elles vont devoir entamer une action.
Exactement. Mais l'action est facilitée parce que la décision de la Commission prouve la faute. Donc quelque part, il suffit de déterminer le montant du préjudice.
Donc ça veut dire qu'il y a une base légale qui permet de faciliter le début d'une procédure, en tout cas pour les personnes qui se réuniraient ou qui le feraient de manière individuelle ?
Exactement, on peut avoir les deux configurations. Et on voit que c'est très fréquent dans la suite de décisions comme celle qui vient de frapper Google.
Et est-ce que plus largement ça pourrait avoir une conséquence, comme nous le demande notre auditeur, sur les relations entre les États-Unis et l'Union européenne à propos de cette guerre commerciale, on l'appelle comme ça, qui existe entre les produits américains d'une part, les produits européens de l'autre part, pardon.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette décision, elle arrive, elle sort pas de nulle part. Elle arrive à la suite d'une procédure qui a duré 3 ans. C'est la deuxième décision qui touche Google, puisqu'il y en avait une déjà l'an dernier, comme vous l'avez rappelé, où ils avaient pris 2,42 milliards d'euros d'amende.
Ça concernait un comparateur de prix, pour préciser.
Voilà, exactement.
C'est ça.
Ouais. Et il y en a une troisième qui est dans les tuyaux, qui devrait sortir l'an prochain. Bon. Face à cela, faut voir que Google a, comme toutes les entreprises qui sont concernées par ce genre de procédure, ils n'ont pas été dans le noir par rapport à la Commission européenne. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec la Commission. Et d'ailleurs, Google a essayé de négocier avec la Commission l'an dernier pour ne pas avoir d'amende. La Commission a refusé. Donc il n'y a pas du tout une surprise par rapport à ça. Et le contexte actuel de la guerre commerciale, il est beaucoup plus récent quelque part que ce qui a pu se faire entre les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce qu'il faut voir, que les autorités américaines qui font de la concurrence, eux-mêmes s'intéressent à Google et eux-mêmes s'intéressent à ses pratiques. Donc, il y a plus une volonté des autorités de concurrence d'assainir le marché, d'assainir ses pratiques, plutôt qu'un rapport entre les États-Unis et l'Europe, qui s'axerait sur ce genre de procédure.
Quand bien même Donald Trump parle, lui, de la tax lady pour désigner la commissaire danoise Vestager, qui elle est d'une certaine manière la bête noire, comme on a pu le lire, des GAFA, de toutes ces entreprises des nouvelles technologies aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que les deux autorités de concurrence, aux États-Unis, le droit de la concurrence, il est mis en œuvre par le département de la justice, mais aussi par une commission qui est indépendante. Et cette commission, elle est justement indépendante du gouvernement.
Très rapidement, Monsieur Christol, est-ce que cette amende-là, dont devra s'acquitter Google, en plus d'une précédente et d'une a priori prochaine à venir, est-ce que ça peut faire vaciller cette entreprise ?
On parle quand même d'une entreprise, d'un groupe, puisque le groupe est dirigé par Alphabet, qui l'an dernier a fait plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc là, on a une amende qui certes est payable tout de suite, comme je l'ai dit, mais qui n'est entre guillemets que de 4,34 milliards d'euros.
Donc il reste de la trésorerie, Google a l'air insolide en tout cas pour continuer sans réel souci pour le moment.
Oui, alors voilà. ça peut avoir un effet immédiat, mais bon, quand on est pris dans ce genre de procédure, on anticipe aussi, les entreprises anticipent et ont tendance à avoir un peu le coup venir, et sachant que...
Merci.
Voilà.
Je vous remercie, monsieur Christol. Il est 10h26, appel sur l'actualité, continue le débat dans un quart d'heure. Mais une dernière question qui vous a intéressé cette semaine, elle concerne le football. Après le sac de l'équipe de France, on le rappelle, deuxième Coupe du Monde pour les Français il y a 8 jours. Ça concerne donc la reprise des Français. Bonjour Salim.
Bonjour Alexis Frigalbo.
Vous nous appelez de Bamako au Mali, je vous écoute Salim.
Effectivement, et Alexis, la Coupe du Monde vient de se terminer. L'UEFA, depuis le mois de janvier, a mis en place une ligue qui va désormais remplacer les matchs amicaux et les qualifications pour l'Euro. J'ai des questions sur ce sujet.
Allez-y.
Et comment les pays sont-ils répartis au sein de cette ligue et comment les équipes sont qualifiées pour l'Euro 2020?
Merci Salim, avec nous en studio Christophe Diremzian, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour Salim.
Du service des sports de RFI, les Bleus, l'équipe de France reprendra donc au mois de septembre dans cette Ligue des Nations. Qu'est-ce que cette Ligue des Nations de football ?
Alors, c'est une nouvelle compétition qui est lancée par l'UEFA toutes les deux saisons. L'idée en fait c'est d'organiser un petit peu plus de confrontations entre équipes de même niveau pour éviter des trop grands déséquilibres. Le problème c'est qu'effectivement il n'y aura plus de matchs par exemple entre la France et
Luxembourg.
Saint-Marin, il y en aura quand même des matchs amicaux, mais l'idée c'est d'harmoniser un petit peu, de faire en sorte que les équipes soient à peu près de même niveau. Alors, vont participer à cette compétition les 55 pays membres de l'UEFA, avec un principe suivant, 4 ligues différentes, A, B, C, D. La Ligue A regroupe les 12 meilleures équipes du continent à l'indice UEFA pour commencer la compétition, puisque pour l'instant, c'est la première fois que ça se produit. La Ligue B, les 12 suivantes. La Ligue C, les 15 suivantes. Et puis la Ligue D, les 16 dernières. Dans chaque ligue, il y a 4 groupes de 3 ou 4 sélections. La composition de chaque groupe a été déterminée lors d'un tirage au sort qui a eu lieu fin janvier. Par exemple, la France est dans la Ligue A et dans le groupe 1. Formule championnat classique aller-retour entre septembre et novembre. Le vainqueur de chaque groupe de la Ligue A est qualifié pour des demi-finales en juin 2019 et donc ensuite une finale avec donc le premier vainqueur de la Ligue des Nations. Avec un titre à la clé. Le dernier de chaque groupe en Ligue A descend lui en Ligue B et il est remplacé par les 4 vainqueurs de groupe de cette Ligue B. Et même système, ainsi de suite, pour l'accession, relégation dans les ligues C et D.
Et vous parliez de l'équipe de France qui sera, je crois, dans le groupe avec l'Allemagne et avec les Pays-Bas.
Absolument, l'Allemagne et la France. Le premier match donc de l'équipe de France, ce sera en Allemagne le 6 septembre.
Voilà. Deuxième question que nous pose Salim. Comment ça va se passer pour les qualifications pour l'Euro 2020?
Alors, ça va se passer, en fait, par rapport à la Ligue des Nations, en toute fin, lors des barrages. Les éliminatoires classiques vont démarrer avec le même système. 5 groupes de 5 équipes et 5 groupes de 6 équipes. Ça va démarrer en mars, cette fois-ci, et non pas en septembre comme d'habitude. Les deux premiers de chaque groupe vont aller directement à l'Euro, ça change pas. Mais contrairement aux éliminatoires de l'Euro 2016, ce ne sont pas les meilleurs troisièmes qui se disputeront les 4 tickets restants, mais les vainqueurs de chaque groupe dans les fameuses ligues A, B, C, D de la Ligue des Nations sont au total de 16 équipes, ce qui veut dire que pour ces barrages, eh bien, il y aura des demi-finales et des finales, et à l'issue de ce processus, eh bien, les 4 équipes qui sortiront vainqueurs de ces barrages, eux, iront directement à l'Euro 2020.
Un Euro 2020 qui aura la particularité, je crois, pour marquer les 60 ans de championnat d'Europe.
Voilà.
Ça sera 12 pays. Donc voilà, les équipes vont vraiment voyager, mais il n'y aura pas de match en France.
Alors, il n'y aura pas de match en France, puisque l'Euro 2016 a eu lieu en France, et donc on laisse la priorité à d'autres équipes.
Merci, merci Christophe Diremzian. Merci à vous, Salim, d'avoir participé à l'émission. Appel sur l'actualité se poursuit dans une dizaine de minutes. Je vous rappelle le thème du débat du jour. On va s'intéresser à cette présidentielle au Mali qui se déroulera dimanche prochain, le 29 juillet. 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Un scrutin qui se déroule notamment dans un contexte un peu particulier, notamment sur le plan sécuritaire, mais aussi à propos des fichiers et des cartes d'électeurs. On en parle dans 10 minutes, juste après le journal.